Oui, en gros, voilà, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, finalement, c'est on parle de
En
l'importance.
fait, oui.
Vas-y, vas-y.
Non, je t'en prie.
Non, oui, l'importance du sexe, en fait, que ce soit sur le terrain, dans un club, dans l'accès à une pratique. Bon, le sport, il n'est pas regardant, normalement, au regard du sexe. Il est regardant sur des qualités physiques, physiologiques, ainsi de suite. Donc, certains, ils voient enfin, pas des similitudes, mais un alignement entre les propriétés physiques et le sexe, et ainsi de suite, qui autoriserait à pratiquer un sport ou pas, à prendre une position dans une place ou un rôle dans un sport mixte ou pas. Et c'est vrai pour voilà, pour tous les espaces de la société. Si on a autant comment dire, si certains luttent avec autant de vigueur sur contre les discriminations sexistes, contre ce genre de choses, c'est en fait que le sexe est considéré à des endroits où il ne devrait pas l'être. Au regard de la pratique sportive, au regard de l'accès à bien des choses, on n'est pas censé être renvoyé à notre catégorie de sexe pour justifier bah, l'accès, pour justifier les conditions, et ainsi de suite. Donc c'est à ce titre-là qu'en fait, après, le sport est regardant sur d'autres critères. Il y avait une question là, dans les commentaires sur la taille. Bon, voilà, quand dans un sport où la taille est discriminante, c'est-à-dire où elle devient déterminante de nos capacités, ainsi de suite, bon, c'est loin d'être aberrant de tirer profit de ça. Mais le problème, c'est que le sexe est une variable sociale avant tout, pas forcément physique. Mais on en fait voilà, il y a des logiques sociales qui s'immiscent dans le jeu sportif, dans les logiques sportives, et qui n'ont pas forcément, enfin, qui n'ont pas lieu d'être ici. Et c'est à ce titre-là que ça pose problème. C'est pour ça que voilà, quelqu'un disait le fait d'être petit met à distance de certains rôles. Bon, bah, de la même manière que celui qui ne court pas vite, eh bah, sera exclu de la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques. Bon. Voilà, c'est remettre ça dans le contexte. Mais même dans le contexte sportif, avec ses principes, le monde du sport, déjà qu'il a tendance à exclure voilà, ceux qui ne sont pas doués pour la motricité, ceux qui ne sont pas dotés physiquement. Mais même dans ce système-là, qui est déjà critiquable, en tout cas, il y a des choses qui ne vont pas de soi, en tout cas qui fonctionnent. On retient des critères qui ne devraient pas l'être, y compris dans ce système-là, si on considère qu'il est légitime. Hein, voilà un peu l'idée. Et donc justement là pour la question des gay games, en gros là depuis, alors je crois que c'est les années 80 hein, que les premières éditions ont eu lieu. Donc vous voyez bien que depuis tout à
82,
l'heure, 82, oui, on
ouais.
dresse un peu les contours du fonctionnement du monde sportif.
82 à San Francisco.
82, c'est ça?
Oui, 82.
Ok. Et donc oui, donc voilà, c'est ça en gros. On dresse un peu les contours de comment fonctionne ce milieu-là. C'est pas forcément. Alors, tout le monde s'y met un peu hein, quand on a un rôle dans le monde du sport, mais c'est un système qui repose sur des principes et des logiques qui lui sont propres et qui contribuent à catégoriser les individus selon leur poids, selon leur niveau de handicap, selon leur sexe, selon bien des choses, de façon formelle, mais aussi d'une manière plus informelle ou plus, voilà, moins, pas forcément instituée, mais au bout du compte, eh ben, met à distance un certain nombre de pratiquants. Et certaines propositions, et notamment celle des Gay Games, étaient justement de contredire globalement, en fait, sur la base d'une organisation affinitaire, de contredire, de remettre en question le système global du sport et de proposer une alternative qui, justement, permette d'aller au-delà des méfaits que génère la pratique sportive, enfin, tel que le sport tel qu'il est organisé. Et donc, les Gay Games, donc certains y ont vu un sport réunissant que des athlètes ou des personnes homosexuelles. Donc, alors, il y avait cet élément-là qui réunissait au départ, hein. Mais l'idée, ça a été de proposer beaucoup plus que ça, ce qui était déjà pas mal, hein, mais c'est-à-dire une critique globale du système sportif finalement, en ne mettant pas en compétition les gens. Il y a des courses, il y a ce genre de choses, mais tout le monde peut participer. Ça veut dire que vous et moi, si vous prenez une inscription au Gay Games, vous pouvez concourir et donc vous aurez votre médaille de quelqu'un qui aura participé au Gay Games. Et quel que soit votre âge, votre orientation sexuelle, votre niveau de handicap, votre sexe, voilà, quel que soit tout ça, vous avez accès à cette compétition-là parce que on a retourné complètement les logiques sportives qui sont plutôt excluantes, qui mettent à distance, qui séparent, qui discriminent. Et alors, il faudrait observer hein, de quelle manière on ne retrouverait pas quelque part des formes de discrimination, d'exclusion, de catégorisation dans ce système-là. Toujours est-il que l'idéologie est autre et on cherche justement, plutôt que le meilleur, enfin, on cherche pas à être meilleur que les autres, mais on essaie de donner déjà le meilleur de soi-même. Et c'est ça, en fait, la réussite se situe dans le fait d'être allé au bout de soi, quoi. Et donc, les compétitions, ce ne sont pas forcément des affrontements, ce sont des courses qui se succèdent. Et l'idée, voilà, c'est de participer. Et réellement, voilà, l'important, c'est de participer. C'est sûrement une meilleure incarnation de cet adage que les Jeux Olympiques, dont Coubertin, qui est l'auteur de cet adage, était le grand défenseur. Voilà.
Alors, il y a Tom tout à l'heure qui disait qu'il y avait une vision de la société qui associe aux hommes homosexuels à forcément un comportement féminisé. Ouais, je pense qu'il y a effectivement des stéréotypes de genre qu'on prend pour.
Tout à fait. Et de la même manière qu'une femme qui s'engage dans un sport où elle va adopter des postures dites masculines, qui sera par conséquent comparée à un homme. Un homme qui s'engage dans une discipline dite féminine, telle que, je sais pas, natation synchronisée, twirling, natation synchronisée qui reste uniquement une affaire de femmes aux Jeux Olympiques, c'est le dernier sport qui, dans ce sens-là, en fait, met à l'écart une catégorie de sexe. Voilà, de la même manière que ce qui se joue pour les femmes dans les sports masculins, ça se joue un peu pour les hommes du côté des sports féminins, même si à l'intérieur de tout ça, c'est différent. Quelqu'un disait tout à l'heure. Faisait de la danse, je crois, ou qu'elle faisait de la danse. Et finalement, il y avait un garçon parmi les filles. Et finalement, on lui attribue quoi comme fonction? Les porter. Parce que c'est un homme, il a plus de force. C'est un garçon, il a plus de force. Donc voilà, vous voyez bien que ça se rejoue. Et puis que les hiérarchies qui se rebâtissent dans des sports lorsqu'ils sont pratiqués en mixte, mais plutôt des sports féminins, ne sont pas les mêmes hiérarchies qui s'opèrent. Quand une femme arrive dans une équipe de rugby, par exemple, on ne lui dit pas « bon, c'est toi qui vas pousser en mêlée parce que tu es quand même une femme ». Vous voyez bien que ça ne se joue pas de la même manière. Quoi.
La même personne avait rajouté que pourtant, il y avait des jeunes filles qui auraient pu être capables de faire des portées, mais qui n'y étaient pas autorisées.
Tout à fait. Et donc, on retrouve bien les mêmes idées. Et pourtant, faire un porté, les critères, ce n'est pas être homme ou femme, c'est être en mesure d'effectuer le porté, être suffisamment résistant pour tenir debout avec quelqu'un sur soi, ainsi de suite. Donc, ce sont des critères qui sont indépendants du sexe, tout cela. Donc, on peut, en gros, l'idée, c'est de penser au regard des caractéristiques qui sont discriminantes dans le monde du sport et qui ne sont pas ventilées de façon discriminante entre les hommes et les femmes. C'est simplement qu'on a envie de voir, vu qu'on associe ces caractéristiques-là aux uns ou aux unes, et typiquement, lorsqu'on dit à un homme « tu feras ça parce que tu es plus fort », ça se trouve, il n'est pas plus fort. Mais c'est notre conception sociale de l'association entre cette qualité et le monde masculin qui nous fait choisir des hommes pour occuper ces fonctions-là.
Oui, je reprends toujours mon exemple des cours de rugby dans le cadre scolaire lorsque j'étais au collège. Et donc c'est vrai en fait que dans mon souvenir les garçons faisaient les mêlées et puis nous les filles on était là pour récupérer le ballon pour aller sprinter et marquer l'essai mais pas beaucoup plus et effectivement le collège c'est aussi un âge où on se construit, on cherche une identité, mais effectivement les garçons étaient en tout cas assez dans une démonstration de on fait la mêlée, dans une démonstration de virilité qui empêchait aussi peut-être certaines filles qui avaient envie de faire des mêlées ou des filles qui s'empêchaient de proposer parce qu'elles avaient peur peut-être de se faire mal ou ce genre de choses quoi. Et c'est vrai que du coup c'était pas tellement mixte ou en tout cas on avait des rôles bien déterminés sur le terrain quoi.
Ça peut peut-être permettre de faire l'injonction, quelque chose dont on n'a pas trop parlé, c'est la socialisation en fait, c'est comment en tant que garçon, en tant que fille, on va être soumis à des conditions, on va être enjoint à avoir certaines activités ainsi de suite qui vont nous construire, qui vont nous bâtir, qui vont nous forger, et c'est vrai pour les activités corporelles au sens large et dont le sport est une déclinaison. Après voilà, c'est ça, l'idée que les différences existent ou pas, c'est pas la question, mais globalement, c'est pas complètement faux, ces différences physiques. Mais est-ce qu'elles sont naturelles ou est-ce que justement elles sont la conséquence d'une socialisation qui a permis aux garçons de développer des caractéristiques physiques, parce que lorsqu'ils étaient petits, on les laissait courir partout, on les contraignait moins dans la mobilité, parce qu'on les a mis très rapidement à faire du sport, des sports où on les laissait se dépenser, où c'était plutôt valeureux, vertueux, que de les voir courir dans tous les sens. C'est beaucoup moins vrai pour les filles. Et donc, à force de demander, ou en tout cas d'enjoindre les garçons et les filles à des activités différentes, eh ben, rien d'étonnant qu'au bout du compte, en termes de morphologie, de compétences, de résistance physique, ainsi de suite, il y ait des écarts. Donc finalement, l'idée, c'est de dire que oui, peut-être il y a des différences à un certain stade. Et c'est pas faux. Hein, quand on regarde les records, encore une fois, les records, c'est une catégorie infime de la population. Les sportifs de haut niveau ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population. Mais toujours est-il que l'origine de tout ça, elle est aussi sociale. C'est parce que voilà, les attentes les sanctions qui sont formulées à l'égard des garçons et des filles ne sont pas les mêmes. Si bien qu'on se forge un corps à l'image et à la mesure des activités que l'on nous a permis ou pas de faire lorsqu'on est socialisé, lorsqu'on est enfant. Et typiquement, si on nous met à distance tout le temps, eh ben, je ne sais pas moi, de sport tel que le rugby, tout ça, le jour où on va nous demander de jouer au rugby, ben, effectivement, on ne saura pas jouer parce que ben, tout simplement, on ne l'a jamais fait. Là où certains partent avec une, deux, trois longueurs d'avance du fait d'avoir été habitué, alors pas forcément à la maîtrise du ballon ou au code du rugby, mais au combat, à l'affrontement physique, à l'affrontement corporel, qui est beaucoup plus familier, si bien qu'on s'y retrouve davantage lorsqu'on est un petit garçon que un garçon que lorsqu'on est une fille, quoi. Donc voilà. Et alors, pour peut-être aller encore plus loin sur mes sports mixtes, là, les sports mixtes dont j'ai un peu plus observé, bah, ça se joue également en fait en mixité. Il y avait le soupçon initial que les hommes étaient plus doués pour occuper les postes déterminants, si bien que ils les occupaient, et puis le jour où les femmes souhaitaient les occuper, bah, vu qu'elles n'avaient pas l'habitude d'y être, c'était compliqué pour elles d'assumer ces fonctions-là. Donc, finalement, elles n'y allaient jamais. Et chose qui était intéressante, certains sports mixtes sont aussi, enfin, ne sont pas que mixtes, il existe aussi des catégories masculines, catégories féminines. Et on observe souvent que lorsque certaines femmes qui jouent en mixte font un pas de côté, vont du côté des compétitions féminines, et ben, les rôles qu'elles n'occupent pas en mixte, et ben, elles sont bien obligées de les occuper, de les remplir en féminine, si bien que ben, elles se forgent parfois une expérience sur ces fonctions-là en féminine. Donc c'est par la rupture de la mixité cette fois-ci que ceci s'opère. Et au retour en mixité, et ben, elles deviennent plus légitimes pour occuper ces rôles-là, puisqu'elles ont elles ont pu se forger une expérience et des compétences nécessaires à l'occupation de ces rôles. Vous voyez bien que voilà, la question de la mixité, vous voyez bien, là, pour qu'elle fonctionne bien, à un moment donné, il faudrait la rompre. Alors, dans le cadre de cet exemple-là. Mais on ne peut pas considérer que d'emblée, la mixité est favorable. La preuve, là, des fois, le salut de la mixité passe par la rupture de la mixité, en fait. Et ça peut sembler contradictoire de prime abord. Mais finalement, quand on observe ce qui se passe, et bien c'est bien ça qui se joue.
Oldenzel soulignait le fait qu'il y avait aussi peut-être une valorisation qui était différente envers les femmes ou les hommes. On ne va pas y apporter le même intérêt.
Des encouragements, il y a des encouragements qui sont différenciés. Et de fait, des valorisations aussi qui sont différenciées. Ça me fait penser aussi à des observations qui ont pu être menées par... on travaillait aussi un peu dans le champ scolaire quand même, et des témoignages aussi, comme a pu le faire Lucie tout de suite, d'élèves filles témoignant que sur un même acte, en fait, hein, quand elles réalisaient cet acte, les profs, le prof, la prof, qu'importe, hein, là, des fois, ça dépasse aussi la question du sexe du côté de l'enseignant ou de l'enseignante, étaient à les féliciter en disant « c'est super, les filles, ce que vous avez fait, c'est bien, etc. » Mais le même acte, la même action, hein, réalisée par les garçons, les élèves garçons, pour le coup, les profs pouvant dire « vous auriez pu mieux faire, vous avez plus de capacités, etc. » Des fois, des encouragements, des valorisations peuvent être aussi très, très ambiguës, hein, en disant « c'est super les filles, mais en gros, vous avez atteint vos limites. » Et puis les garçons, « c'est bien, mais vous pouvez mieux faire. » Donc voilà, hein, c'est, ces encouragements et ces valorisations, elles sont aussi très, très subtiles et tout dépend de ce qu'on attend des uns et des autres. Donc, pour certains, on va estimer que peut mieux faire parce qu'il a les capacités. Et pour d'autres, c'est déjà très bien, n'en demandons pas plus. Donc, on voit bien aussi dans les activités physiques et sportives.
Et effectivement, ce que je me demandais, c'est... Enfin, en tout cas, en tant qu'éducateur sportif ou professeur, au-delà justement des histoires de valorisation qui peuvent être différentes, comment en fait on peut essayer d'intervertir les rôles, en tout cas dans le cadre, peut-être dans le cadre scolaire pour des professeurs de sport, faire en sorte que les filles se sentent plus légitimes à occuper certains postes dans les sports collectifs. Est-ce qu'il y a une prise de recul ou comment, je ne sais pas si on a la réponse, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des moyens d'agir ?
Alors, effectivement, du côté des enseignants d'EPS, parce que je vois une question, une remarque aussi, tout dépend de la génération des enseignants et des enseignantes, tout dépend de leur formation. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup dans les programmes les notions de compétences, de prise de rôle, donc ce qui permet aussi de faire jouer des rôles différenciés. Il y a la question de la programmation des activités physiques et sportives et artistiques, avec le risque parfois à nouveau de réassigner. En fait, l'idée, c'est que là, dans la programmation, il y ait la possibilité que tous les élèves puissent s'identifier en quelque sorte à un sport, à une activité, à une proposition et que tout le monde soit servi en quelque sorte. Mais avec le risque, encore une fois, de dire, ben voilà, cette fois-ci, sur le cycle prochain, on va faire de la danse, sur le cycle prochain, on va faire du hand, sur le cycle prochain. Donc, c'est en termes de programmation que j'ai l'impression les enseignants et enseignants de PS tentent de faire de la mixité avec le risque là encore d'être sur des programmations qui viennent redire ben ça c'est des sports de gars, ça c'est des sports de filles et de voir comment les rôles se distribuent. Après les enseignants qui nous proposaient du foot et dénigrer, oui voilà hein, les enseignants peuvent avoir leur propre on a regardé par exemple sur certains, admettons que c'est un cours de danse, ils vont faire une activité de danse, souvent ils demandent au foot, ils demandent aux élèves connaissez-vous, etc. Et puis ils vont mettre faire une sorte de démonstration avec tel et tel élève, et bien là aussi hein, qui vont-ils mobiliser sur telle activité. Et là, on va voir que la variable sexe, elle joue beaucoup. C'est-à-dire que sur danse, ils vont peut-être aller plutôt chercher les filles et foot, plutôt aller chercher les garçons. Donc, il y a des automatismes comme ça. Si on vient... Eh bien, les choses perdurent. Les choses perdurent. Donc, c'est de la mixité... avec séparation, faire ensemble, ce n'est pas toujours facile parce qu'effectivement, la mixité, ça ne se décrète pas, ça se travaille de différentes façons et que les enseignants n'ont pas toujours les moyens, la formation pour réaliser cela en fait. Je ne sais pas s'il y avait une main de levée, je vois ça.
Oui, je crois qu'il y a Oldesen qui voulait prendre la parole, donc tu peux ouvrir ton micro pour poser ta question.
Oui, excuse-moi, je ne suis pas super rapide parce que je suis un peu vieille, mais...
Ah, on a fait une conférence sur l'âge ce matin, il ne faut pas se dénigrer, les stéréotypes liés à l'âge, dis donc.
Ah ben, moi, je ne me dénigre pas, moi, je ne pense pas que vieille est forcément négatif. Comme je ne pense pas forcément qu'être une femme ou de faire le sprint est forcément négatif. Ouais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai aussi du mal à taper vite fait une réponse à une question parce que voilà. Donc des fois j'ai un train de retard, mais c'est comme ça. Moi j'ai des fois l'impression même en posant la question, que quand vous avez dit que vous, à l'école, vous faisiez que des sprints au rugby, c'est peut-être parce que vous courez plus vite que les garçons et que vous étiez meilleur là. Et pourquoi le sprint est moins bien que la foulée, vous voyez ?
Oui.
Moi, par exemple, je suis donc une femme, maintenant d'un âge avancé, mais je mesure 1,86 m. Donc, physiquement, il y a des tas, surtout des Français, que je mets quelques centimètres dans la vue et la force qui va avec. Mais traditionnellement, voilà, les hommes sont plus forts, traditionnellement, physiquement, les hommes sont plus forts que les femmes en général, mais moi, je suis bien plus forte que des tas de Français. Je suis donc pas française d'origine, mais bon, voilà. Ce qui ajoute un petit truc. Mais c'est quand vous dites... Moi, des fois, ce qui me gêne, en fait, c'est pas un problème qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Moi, je suis plutôt contente qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, et entre les gens tout court, d'ailleurs. Mais quand on dit que vous, en tant que jeune fille, vous aviez le droit que de courir et pas faire la foulée, peut-être que vous étiez meilleur en sprint. Et peut-être que moi, si moi j'étais à votre école à l'époque, moi on m'aurait peut-être bien mis dans la foulée parce que j'étais beaucoup plus grande que les garçons. Vous voyez ? Et c'est ça que je veux dire par la valorisation. Parce que même en discutant là, j'ai l'impression que ce que font les gars, c'est mieux que ce que font les filles. Et ce n'est pas parce que c'est différent que ce que font les gars, c'est forcément meilleur que ce que font les filles. C'est différent, certes. Mais moi, souvent, je trouve que je suis bien meilleur que ce que font les gars, en fait. Mais pour ça, il faut accepter le fait que la jauge change, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair.
Si je peux me permettre, en soi, la différence, ce n'est pas un problème. Effectivement, la seule chose, c'est que quand on parle par exemple, de mixité, on a l'impression que la différence, elle est constituée. Par exemple, c'est comme si toutes les femmes étaient sur le même modèle, comme si tous les hommes étaient sur le même modèle. Or, vous venez de le dire, hein, c'est pas, on n'est pas. Il y a des tendances statistiques, mais quand on regarde de près, il y a des grands, des petits, de tous les poids, de toutes les tailles. Donc, c'est pas en soi la différence. C'est la manière de comment elle est interprétée, cette différence. Et en tout cas, dans le domaine sportif, mais dans bien d'autres aussi, ce qui est mis en avant surtout, c'est la hiérarchisation. Hein, les prestations sportives des femmes et des hommes ne sont pas forcément, là pour le coup, valorisées de la même façon, médiatisées de la même façon. En soi, c'est pas, le problème n'est pas la différence.
Pour poursuivre justement, dans les pratiques... Oui, et dans les pratiques, en l'occurrence, dont on parle, sur la répartition des rôles, au final, que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes rôles, les mêmes statuts, bon, c'est une chose, mais le problème, c'est surtout que l'origine de cette répartition soit le sexe. Si, à la rigueur, ce sont d'autres critères qui ont généré ponctuellement cette répartition-là, et les critères tels que la taille, tels que la vitesse, les critères qui sont discriminants dans le monde sportif, en fait. L'idée, c'est de voir la différence de sexe comme explicative et en tout cas comme à l'origine de toute organisation. Et dans les pratiques mixtes, c'est ça qui est intéressant. Alors certes, on a beaucoup dit que ça contribue à reproduire les hiérarchies, ainsi de suite, mais c'est aussi l'occasion, lorsqu'on se rend compte que certaines, notamment, sont compétentes pour justement occuper les rôles traditionnellement attribués aux hommes, elles les occupent Et c'est aussi ça que ça permet. Mais par contre, voilà, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a un certain nombre de logiques qu'il faut dépasser. Et finalement, le motif satisfaisant, c'est d'avoir, qu'on ait une ventilation sexuée des rôles, une séparation sexuée des rôles ou pas, si la répartition à l'œuvre, elle s'est construite en s'affranchissant de la variable sexe, bon, bah, là, on commence à être dans quelque chose de plus positif déjà. Et voilà, il faut distinguer voilà, l'observation et puis bah, les mécanismes en fait, qui organisent des systèmes dont on parle depuis tout à l'heure. Là, et le problème, avant tout, ce n'est pas de dire que les garçons... Et on parle beaucoup de représentation aussi. Alors peut-être qu'on a reformulé parfois des propos, on ne se les attribue pas, hein, c'est des représentations qu'on essaye de commenter. L'idée selon laquelle... les hommes bénéficient d'un soupçon de supériorité dans le monde du sport, c'est quand même une idée qui façonne le monde du sport dans son ensemble et la manière dont on joue quand on est en mix, la manière dont on accueille les uns, les unes lorsqu'on est un club. Et cette idée-là qui est une norme, qui n'est pas réalité, qui n'est pas plaquable à chaque individu, à chaque situation, et ben c'est là qu'elle intervient et c'est là qu'elle est problématique. C'est que ça intervient comme cadre, comme norme, comme idée générale qui s'appliquerait partout et tout le temps, alors que même s'il y a des tendances, ça ne s'applique pas partout et tout le temps. Et de s'y référer par principe sans faire l'expérience de la réalité, là, c'est problématique. Alors, là, il y a la réflexion de Thomas, donc il faut, je ne sais pas s'il faut, mais en tout cas, au regard des logiques sportives, ça semblerait plus légitime, en tout cas. Et après, on pourra revenir sur les logiques sportives, et c'est un autre sujet. Mais en effet, voilà. Mais sauf que, bon... Le mélange des deux, le sport et les questions de mixité, c'est toujours gênant. Alors que finalement, la mixité, quand on interroge les gens, finalement, ils trouvent ça génial. Le sport, ils trouvent ça aussi génial. Alors, mixité, sport, formidable, on a envie de se dire. Mais bon, vous voyez bien que la vérité n'est pas aussi simple que ça.